Voilà, nous sommes à nouveau réunis pour cette petite conférence spirituelle de ce mois de novembre. Toujours là pour nous faire progresser dans le mystère de Dieu. Nous commençons par le signe de la croix, qui est encore une fois comme un résumé de tout ce que nous avons à vivre. Voilà, nous faisons toutes choses au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est une œuvre trinitaire, l'œuvre du salut est une œuvre trinitaire, et elle est en même temps une œuvre humaine, c'est-à-dire la Trinité unie à l'humanité. Cette croix, elle a été plantée dans le sol de notre terre à nous, ici-bas, et elle est élevée jusqu'au ciel comme un pont. Voilà, c'est ce que je disais ce matin à la messe de 7 heures. Je prenais cet exemple osé de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu comme lieu du combat au corps à corps. Et pour atteindre ce lieu de l'armée française, il y a un moment donné où il n'y avait plus que le corridor sanitaire, le pont aérien. Voilà, c'était le pont aérien qui maintenait le lien et qui permettait aux hommes, dans leur corps à corps, d'avoir les moyens de continuer à accomplir les choses. La messe, c'est ce pont aérien entre la patrie derrière et puis l'endroit du corps à corps. L'endroit du corps à corps, c'est la terre. Et effectivement, la terre est Dien Bien Phu. Et nous avons besoin, effectivement, de ce va-et-vient aérien de la messe qui relie la terre et le ciel. Donc c'est le lien qui relie, comme les avions reliaient la base arrière et le lieu du combat. Eh bien, c'est ça. Encore une fois, nous sommes dans cette gestion-là. C'est une image, évidemment, avec toutes les limites qu'elle peut avoir. Et cependant, il y a quelque chose de beau là, de se dire, effectivement, c'est ce pont aérien, nous avons besoin de ce pont aérien. Quand les ressources n'arriveront plus de la base arrière, tout sera fichu. Voilà. C'est pour ça que la messe est essentielle, parce que c'est la ressource permanente entre la base arrière, entre la patrie, et ceux qui sont en train de se battre au corps à corps, ce grand combat spirituel que l'on retrouve, bien sûr, de manière biblique, dans le temps de l'Exode particulièrement. Nous avons besoin, effectivement, de ce soutien de Dieu pour que le combat puisse se continuer. Et on a besoin, effectivement, de nous souvenir qu'il y a ce combat à mener. C'est un mot piégé, c'est un mot interdit désormais de parler du combat spirituel, de la lutte entre la vertu et le vice, entre le bien et le mal. Et pourtant, encore une fois, s'il y a bien quelque chose de plus, enfin, d'évident et d'universel, c'est bien cette confrontation entre le bien et le mal, de très grands biens et de très grands maux, d'un point de vue un peu atomique ou d'un point de vue de pays, et puis ce bien et ce mal qui se disputent au fond de notre propre cœur. Donc il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand, l'infiniment singulier, c'est-à-dire dans chacun de nous, et puis l'infiniment universel, effectivement, ou qui touche tout le monde. Voilà, et nous sommes dans cette ligne-là. Et nous avons besoin de ce lieu qui refait les forces. Voilà, nous sommes engagés dans le grand combat, et à la messe, nous venons justement associer, voilà, nous sommes dans le pont aérien, dans le corridor sanitaire, c'est notre effort de guerre d'être là, effectivement, non seulement pour nous-mêmes, parce que la guerre se fait à l'intérieur de nous, mais aussi pour les autres, et c'est notre effort de guerre d'être participant de ce convoi aérien, de ce corridor sanitaire, pour tous ceux qui, en ce moment, sont encore plus loin à des postes avancés, et qui ont besoin, dans leur corps à corps extrême, eh bien, que quelqu'un vienne leur apporter ce dont ils ont besoin, et c'est effectivement la messe, notre participation à la messe. Voilà, donc on a besoin de cela. Ce signe de la croix, qui doit être toujours pour nous un grand résumé, une belle synthèse qui doit nous aider profondément, puisque l'œuvre trinitaire est action, est dynamisme, et que par notre main, eh bien, nous sommes dans une action. Voilà, la main, voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a cette action entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est signifiée, cet aspect dynamique est signifié par notre main qui bouge entre notre tête, notre corps et nos bras et nos épaules, disent quelque chose aussi, évidemment de manière un peu, c'est imagé, mais cependant elle est bien synthèse, effectivement, de cette réalité que l'œuvre trinitaire est en action, est en œuvre, et qu'à un moment donné, cette œuvre de l'action trinitaire va passer par notre propre main. Nous sommes l'acteur de l'action trinitaire. Nous sommes l'acteur du salut pour nous-mêmes et pour les autres, en union, évidemment, avec celui par qui tout peut se faire, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par la vertu du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais par l'action de ma main que l'action s'accomplit, et sur moi et sur les autres. Et donc on a besoin de retrouver ce sens dynamique, c'est une main qui bouge, voilà. Et quand ça bouge, c'est la vie. Voilà, c'est bon, juste pour ça que j'avais laissé un peu la porte ouverte, parce que, en fait, sinon, c'est toujours un peu compliqué, et ça fait plus de bruit que prévu. Non, elle n'est pas facile, c'est pour ça que j'ai laissé un peu... Donc, on a vraiment besoin de rester dans cette œuvre trinitaire, voilà, et donc pour continuer à avancer. Et en même temps, nous touchons le point névralgique, finalement, de ce mystère. Quels sont ces points névralgiques? Nous touchons notre tête... parce que c'est l'intelligence qui doit être touchée par le mystère de Dieu. Donc l'intelligence est faite pour la vérité. Et quand nous sommes effectivement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous commençons par la tête, parce que c'est la vérité qui vient se révéler. Et on a d'abord besoin effectivement de cette réalité-là. Le Père est la vérité qui se révèle, qui se communique. On a besoin effectivement d'atteindre la vérité. Or, il se trouve que dans le combat spirituel que nous menons, la vérité a des ennemis. La vérité a des carences. Ça peut être l'ignorance, ça peut être le doute, ça peut être le mensonge, et ça peut être l'erreur. Dieu vient justement nous donner l'antidote à tout ce qui pourrait manquer à notre intelligence, c'est-à-dire l'antidote à l'ignorance, puisqu'il vient se révéler. Il vient se donner l'antidote à l'erreur, puisque le Christ, justement, nous évite toute erreur. Celui qui suit le Christ est sûr de ne pas pécher. Donc pour éviter les erreurs de notre intelligence laissée à elle-même, qui chercherait par elle-même la vérité des choses. Voilà, nous ne sommes pas nous ne sommes pas la clé de lecture de notre propre monde. L'humain ne porte pas la notice de lui-même. Et donc nous avons besoin, effectivement, d'être là. Le doute, c'est la même chose. Celui qui s'appuie sur le Christ ne doute plus. Il est lumière dans les ténèbres. Voilà, vous voyez, donc on a vraiment, vraiment besoin de cette réalité-là, qui est, en un sens, tout à fait synthétisée, à nouveau, dans ce signe de la croix. Et c'est pas pour rien que l'Église a toujours fait de ce signe de la croix, justement, une expression de la foi, et un début et un achèvement de toute prière, parce que tout est là. Donc, au nom du Père, nous touchons notre intelligence. Et du Fils, nous touchons le cœur. Qui va nous prouver que Dieu est amour? C'est le Fils. Saint Jean nous le dit... Nous avons vu son amour et nous y avons cru, au point que saint Jean dira « Dieu est amour ». Voilà, Dieu est amour. J'ai vu le Christ, c'est bon. Je sais ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est le Christ, et le Christ, c'est l'amour. Voilà. Et donc, effectivement, la vérité doit s'incarner. Donc, c'est la réalité entre le Père et le Fils, entre le Père et le Fils qui s'incarne. Voilà, le Fils existe déjà avant son incarnation, évidemment. Il est toujours Fils de Dieu. Dans cette dynamique intérieure à la Trinité, il y a toujours cette filiation permanente, cet engendrement entre le Père qui engendre le Fils, mais il y a cette réalité incarnée à un moment donné, dans laquelle on va bientôt entrer, dans le mystère de Noël, où nous allons effectivement nous émouvoir, et il y a de quoi, effectivement, en contemplant cette vérité qui vient s'incarner. Voilà, le Verbe se fait chair. Voilà, donc on a besoin de cela, pour effectivement avancer. Et nous touchons, en le disant, en continuant sur ce signe de la croix, nous touchons notre cœur. Parce que c'est, à un moment donné, Dieu est amour, super, mais il faut que ce soit Dieu est un amour pour mon cœur à moi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la vérité doit venir chercher mon intelligence à moi. Elle n'est pas seulement vérité pour tout le monde, elle est vérité pour moi. Et il y a un moment donné où j'ai besoin de m'approprier, d'être saisi par cette vérité. Et puis, il faut que l'amour de Dieu me touche moi. Et donc, effectivement, c'est en un sens, je désigne mon intelligence. En faisant le signe de croix, je montre mon intelligence, je me montre à moi-même mon intelligence, là où l'action de Dieu doit intervenir d'abord, dans la vérité, dans l'intelligence, puis, effectivement, d'atteindre mon amour. Voilà, je suis saisi par l'amour, et nous serons jugés sur l'amour. Tout est dans l'amour. Tout est là. Dans le rapport à Dieu, sans quoi nous nous trompons. Voilà, et nous avons besoin effectivement d'être saisi dans l'amour, aussi parce que l'amour humain peut rater, c'est-à-dire que le cœur peut se tromper. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin du mystère de Dieu qui vient chercher notre propre cœur, non seulement pour que nous comprenions ce qu'est l'amour, puisque l'amour c'est Dieu, et qu'à partir de là, puisque nous avons été faits à la ressemblance de Dieu, et bien que notre cœur fait pour l'amour, c'est-à-dire fait pour être aimé et pour aimer, et bien que nous le saisissions et que nous mettions en œuvre, comme le bon Dieu nous le propose, nous y invite, nous le demande et nous le commande, effectivement, dans cette œuvre d'amour qui doit s'accomplir. Le premier commandement dans la cérémonie du baptême, c'est « si tu veux la vie éternelle, observe les commandements, tu aimeras ». Voilà. Et nous entrons dans quelque chose d'assez étonnant pour notre société, pour l'humain en général, mais peut-être encore plus spécialement dans notre société contemporaine, c'est que l'amour est un commandement. Comment ça ? Normalement, c'est un sentiment. Eh ben non, c'est un commandement. Tu aimeras. Ah ben non, mais ça, c'est des choses, ça ne se commande pas. Eh ben si, justement. Et donc, il ne faut pas se faire avoir par le discours ambiant. L'amour, ça ne se commande pas. Eh ben si, Dieu dit le contraire. Ça se commande. Tu vas aimer. Tu aimeras. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y a cette dimension du vouloir. Si tu aimeras, c'est un commandement. Je veux, moi, Dieu, que tu aimes. Et donc moi, je vais donc obéir à ce commandement. Je vais donc utiliser mon intelligence et ma volonté pour aimer. Et finalement, je vais aimer avec mon intelligence et ma volonté plus encore qu'avec mon cœur. Et là, c'est là l'association intéressante ou étonnante. C'est que pour nous, normalement, avec un cœur que Dieu nous a donné, mais un cœur qui a été froissé par le péché originel, eh bien, nous pensons que tout l'amour réside uniquement dans le cœur, c'est-à-dire dans l'aspect sentimental, dans l'aspect passionnel. Eh bien non. Non. Et Dieu nous rappelle à l'ordre pour effectivement que nous ne nous trompions pas face à cette réalité qui n'est pas laide pour autant. C'est-à-dire que notre sentiment existe et qu'il peut être beau, mais qu'il peut aussi ne pas être beau. Et donc c'est pour ça que l'amour dans l'ordre de la charité est plus haut encore que simplement l'amour d'un cœur humain sentimentalo-romantique. Alors que très souvent, nous aimons les gens, les événements ou même Dieu, si notre saisissement, si notre sentiment, bref, si nous vivons une romance avec quelqu'un, avec un événement ou avec Dieu. Si nous sommes dans l'ordre romantique, alors ça peut durer toujours. Et que s'il n'y a plus de romance, alors l'amour s'arrête. Eh ben non, Dieu dit, mais pas du tout, pas du tout. Il peut se faire que la romance s'arrête, que le sentiment s'estompe, ou qu'il n'y ait plus rien du tout. Et pourtant, qu'il n'y ait plus rien du tout d'un point de vue du sentiment n'empêche pas l'amour d'être, puisque c'est un acte de la volonté et c'est un acte de l'intelligence, d'abord. Et donc, c'est très important. Sans quoi, effectivement, nous nous trompons. Et alors, nous allons aller de sentiment en sentiment, de passion en passion, de pulsion en pulsion, croyant que finalement, le bonheur, c'est l'amour, mais l'amour dans le sens le plus cardiaque, cordial du terme, c'est-à-dire uniquement romantique. Eh bien non. Voilà. Et donc on a besoin que ce mystère de Dieu vienne nous chercher là. Et donc, après avoir désigné avec notre propre main le lieu où Dieu doit venir, c'est-à-dire notre intelligence, eh bien ensuite, nous désignons notre cœur pour que notre cœur lui-même continue à être façonné, c'est-à-dire à être éclairé par rapport à ce que doit être l'amour. Parce que, encore une fois, malgré tout, le siège de l'amour, c'est le cœur. Le cœur est le siège des passions. Et que l'homme a toujours fait du cœur le symbole de l'amour. Le symbole. Très bien. Effectivement, je t'aime de tout mon cœur. Bon, très bien. Mais, et le Christ, dans cette pédagogie et dans cette science de l'homme, va montrer son sacré cœur. Puisque c'est là que l'homme, quand on parle de l'amour, Dieu pense tout de suite à son cœur, à son propre cœur, et bien alors, effectivement, le Christ va montrer son propre cœur aussi, pour que nous, dans notre lecture, nous comprenions les choses. Il nous aime avec un cœur. Voilà. Donc, à ce point-là. Mais l'amour est plus haut. Il est plus grand, il est plus vaste encore que cela. Voilà. Et c'est cette largeur, cette profondeur, cette hauteur de la charité du Christ dont parle saint Paul. Eh bien, il y a un bel exemple. Il y a deux exemples plutôt. C'est le Christ Pantocrator de la basilique de Montmartre, qui est immense, et qui a un cœur. Voilà. Et donc finalement, que vous puissiez goûter et regarder, comme dit saint Paul, quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, et de connaître la charité du Christ. Voilà. Quand vous levez les yeux, quand vous rentrez dans la basilique de Montmartre, vous avez cet immense Christ qui vous ouvre les bras. Voilà. Eh bien, là, il y a quelque chose qui est dit de l'amour de Dieu. Voilà, cette espèce d'immensité de l'amour. Voilà, c'est magnifique. Hein, voilà, on a besoin effectivement d'être marqué par là. Voilà. Et en même temps, c'est un Christ qui aime et qui aime dans cette figure donc du Christ Pantocrator, qui aime avec ses bras ouverts, parce qu'à un moment donné, l'amour embrasse. Cet amour, l'amour agit. Voilà. Et c'est pour ça qu'une fois que nous avons posé le doigt sur le cœur, qui est le siège de l'amour, très bien, alors nous touchons aussi nos bras, nos épaules, pour marquer qu'à un moment donné, si l'amour est comme le plan de Dieu le prévoit ou le demande, alors nous allons agir, nous allons ensuite étendre nos propres bras pour effectivement atteindre tout ce que Dieu veut que nous atteignions par notre amour, Dieu lui-même et puis les autres, avec des bras étendus, de la même taille finalement à notre limite humaine, mais de la même taille, en tout cas dans le même acte que celui du Christ. Voilà. Et nous, à un moment donné, comme nous n'avons que deux bras, donc nous ne pouvons pas atteindre, n'essayez pas, ça ne marche pas, nous ne pouvons pas atteindre en tendant nos deux bras, avec notre main, le bras d'après. Donc, je dis pour les gens qui... pour l'audio, évidemment, parce que je fais un signe, ça ne peut pas se voir pour les gens qui écouteront l'audio, mais qu'effectivement, avec ma main droite, avec laquelle je fais mon signe de croix, je ne peux pas atteindre, si je tends ma main gauche, tendue, avec ma main droite, je peux pas l'atteindre. Donc on est obligé, dans le signe de croix, de plutôt toucher les épaules qui expriment effectivement cette réalité totale, mais on ne peut pas aller la toucher. Vous allez vous prendre une scoliose, hein. Si vous faites un truc comme ça, vous allez vous tendre, ça ne va pas marcher. Mais c'est ça l'idée. Et qu'effectivement, qu'est-ce que ce Saint-Esprit ? C'est l'esprit entre le Père et le Fils, qui est cet esprit d'amour permanent, qui nous rattrape, qui nous rejoint, au point que nous-mêmes, une fois que nous avons compris l'intelligence, la vérité, le cœur, l'amour, alors nos bras vont agir et nous, vont se répandre, vont s'étendre à tout ce que Dieu nous mettra sous la main, sous les bras, c'est-à-dire à hauteur de jusqu'à toucher, voilà. Donc on est, c'est ça qui compte. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien là, en touchant notre cœur, plutôt notre intelligence, puis notre cœur, puis nos bras, eh bien, tout est dit. Et à la fin, évidemment, la fin des fins, c'est que cette réalité-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, ça forme un signe de croix, pour le coup. C'est ça, le mot « signe de croix », c'est que finalement, nous traçons sur nous-mêmes le signe de la croix avec tout ça. Et donc, il y a l'œuvre trinitaire qui se continue, et à un moment donné, cette œuvre trinitaire va s'incarner de manière essentielle pour l'histoire du monde et l'histoire de chacun de nous, c'est la croix du Christ. La croix du Christ que nous traçons sur nous-mêmes. Les croisés portaient la croix sur l'épaule, c'est-à-dire une pièce d'étoffe, pour rappeler à ceux qui étaient là, et pour se rappeler aussi que leur démarche était d'aller vers la croix. Et les chevaliers portaient sur leur tunique la croix, eh bien nous devons aussi être dans une milice du Christ. Est-ce que c'est saint Bernard? Vita hominis militia, un truc comme ça. C'est-à-dire que la vie de l'homme, c'est un combat. La milice, miles militis, c'est le chevalier, enfin, c'est celui qui combat. La vie de l'homme est un combat. Est un combat pour le bien, parce qu'effectivement, c'est un combat permanent, physique, mais aussi spirituel. Comme le dit saint Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. C'est-à-dire que tout cela est d'abord spirituel. C'est un combat spirituel d'abord. Il y a l'humain incarné, bien sûr, mais il y a cette dimension encore plus haute. En ce sens, je rejoins maintenant le topo lui-même, qui est donc cette question de racheter le temps. On peut pas aller plus loin, il n'y a rien à faire. Hein. C'est-à-dire que si on comprend ça, on a tout compris, si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Donc, j'ai trouvé justement un article récent, là, d'il y a une semaine, qui, je trouve, pose de manière intéressante le problème de ce rachat du temps. Qu'est-ce que c'est que racheter le temps, nous dit saint Paul. Plutôt, saint Paul nous dit racheter le temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, prenez votre enfant qui a fait une bêtise, et il dit, je vais me racheter. C'est-à-dire que je vais me racheter, c'est-à-dire que je vais, par l'acte que je vais faire, réparer, et non seulement réparer la situation, mais aussi, me racheter, c'est de réparer l'amour, c'est-à-dire de réparer l'opinion qu'on peut avoir. C'est ça, non, se racheter. C'est pas « je vais racheter », je vais me racheter. Donc, vous voyez, il y a une dimension là, c'est-à-dire que je vais réparer la faute que j'ai pu commettre, mais je vais aussi faire un sacrifice de moi-même pour effectivement dire à celui que j'ai blessé, en l'occurrence, pourquoi pas les parents, c'est-à-dire je veux que vous retrouviez une bonne opinion de moi. Et je vais pour cela montrer que je vais me sacrifier, que je vais faire un effort sur moi-même. Ça va me coûter quelque chose de moi-même. Je vais me racheter. Et c'est pas seulement prenez ma carte bleue. Vous voyez, donc une dimension, une implication. Et qu'est-ce que c'est que ce mot d'Éphésiens 5 ? Nous rachetons le temps. Eh bien, c'est ça, encore une fois. Et qu'est-ce que le Christ vient faire ? Il rachète le temps. C'est-à-dire, il vient payer un prix pour le passé et pour l'avenir. Parce qu'encore une fois, l'acte du Christ atteint tous les temps. Et que nos actes à nous peuvent atteindre tous les temps aussi, puisque nous sommes membres du Christ. C'est-à-dire, nous atteignons notre propre passé et le passé du monde. Nous savons que nous sommes au mois de novembre, et que les âmes du purgatoire, c'est forcément à un moment donné des âmes qui ne sont plus, donc elles sont du passé, par rapport à la chronologie de l'histoire des humains. C'est des gens qui sont morts, donc ils ne sont plus là, donc c'est le passé. Bien, mais de quel passé parlons-nous ? Est-ce que c'est effectivement nos propres parents qui sont morts, ou peut-être nos ancêtres qui sont morts il y a très longtemps, et que nous pouvons, et sur lequel nous avons un pouvoir de rédemption. Donc on a un pouvoir sur le passé. Nous avons un pouvoir sur le grand passé, en ce sens-là, et puis nous avons un pouvoir sur notre propre passé. Nous ne sommes pas morts, et donc nous avons un pouvoir de rachat, nous avons un pouvoir de nous racheter, non seulement de payer le prix, voilà ma carte bleue, mais surtout de me racheter, c'est-à-dire de me mettre dans la balance pour réparer, et pour réparer l'opinion, même si le mot devient un peu dangereux par rapport au bon Dieu, parce que le bon Dieu, il a toujours une bonne opinion de nous, la question n'est pas là, mais c'est le parallèle que je cherche évidemment à vous faire saisir, effectivement, de réparer ce qui a pu se faire avant. Et puis, nous sommes dans le présent. Nous savons que notre vertu d'aujourd'hui nous bonifie dans l'instant présent. Nous sommes meilleurs, nous sommes améliorés parce que nous ressemblons plus au Christ en faisant plus le bien. Nous sommes configurés au Christ depuis notre baptême, sauf que cette configuration de départ, comme un talent confié, doit à un moment donné prendre un fruit. Tu m'as confié 5 talents, en voilà 5 de plus. Et ce n'est pas seulement une configuration baptismale, une sorte de SMIC, une sorte de valeur minimale qu'il faudrait juste préserver jusqu'au retour, c'est que ce Christ auquel nous sommes configurés par notre baptême nous laisse toute la place pour notre propre vie, pour que cette dimension christique, nous en fassions quelque chose par nous-mêmes. Ce ne sera pas seulement passif, notre configuration au Christ. parce que sinon, on pourrait nous dire, c'est passif, le baptême, ok, on a, c'est le mérite de Jésus-Christ qui nous permet d'être configuré au Christ, super, voilà, c'est génial et tout. Et en un sens, ça suffit effectivement pour la vie éternelle, pour un enfant qui serait baptisé. En revanche, effectivement, ça ne suffira pas. Est-ce que tu es seulement le tout petit Christ du temps où tu avais 2 mois et demi lors de ton baptême, ou est-ce que tu es le grand Christ, c'est-à-dire le Christ qui a pris la taille de ta propre vie et ta vie à la taille du Christ pour effectivement accomplir les choses. C'est ça, nous sommes dans les derniers temps de l'histoire liturgique, donc c'est dimanche prochain, ce dimanche, c'est la fin, donc dimanche d'après, c'est le temps de l'Avent qui commence, donc on reprend sur un cycle liturgique, mais donc, voilà, sur quoi serons-nous jugés ? Nous serons jugés sur l'amour, très bien, un grand amour m'attend, dit saint Jean de la Croix, très bien, mais nous serons jugés. C'est pas seulement qu'un grand amour m'attend, c'est un grand amour m'attend qui va être dans un jugement de l'amour que j'aurais su vivre, c'est-à-dire la configuration au Christ amour l'aurais-je atteint moi. Et le Christ amour, c'est celui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Et donc il y a un moment donné où la rédemption, le rachat, passe par ce que le Christ a vécu et que l'Église doit vivre. Elle peut le vivre de deux manières. L'Église, comme chacun de nous, puisque nous sommes l'Église, nous sommes une toute petite Église, et puis nous faisons partie de la grande Église, c'est que nous pouvons vivre de manière passive la souffrance qui peut nous arriver. Comment dire ? Il y a deux moyens de racheter le temps. Il y a ce qui nous arrive que nous ne voulions pas, mais que nous pouvons offrir, et puis la partie que nous voulons offrir, c'est-à-dire que nous allons décider d'un effort, d'une part de rédemption que nous allons nous imposer, que nous allons nous offrir finalement pour effectivement racheter le temps. Et l'Église, c'est la même chose. Et l'Église aujourd'hui, et je dirais même, allons plus loin, une personne qui ne veut pas entrer dans l'ordre de la rédemption, c'est-à-dire d'une souffrance voulue, c'est-à-dire, enfin, une souffrance voulue, en tout cas de porter sa croix, de prendre une part objective, active, à notre propre salut, eh bien, il y a un moment donné où ce qui va nous arriver de l'extérieur, qui sera providentiel, le Seigneur nous offrira de manière extérieure les occasions suffisantes pour effectivement réparer quand même. Et le fait est que si nous l'acceptons, nous ne l'avions pas accepté avant, nous ne voulions pas faire un effort sur nous-mêmes, mais la Providence, bam, nous est arrivée, et effectivement, on va nous offrir une occasion extérieure qui va nous changer. Si cette occasion extérieure, nous en faisons quelque chose, nous nous l'approprions en disant « très bien ». C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais elle est là, je la prends et je l'offre, alors nous sommes changés. C'est-à-dire que c'était passif, mais là, puisque nous nous l'approprions, c'est un moyen vraiment de conversion. Et que certainement, à partir de là, nous voudrons faire mieux après. Reprenons un exemple douloureux pour aller jusqu'au bout de l'exemple, puisque ce que nous avons chacun à vivre, l'Église aussi doit le vivre. Ou ce que l'Église doit vivre, chacun de nous doit le vivre, cette réalité d'une vie de l'Église qui n'a plus voulu parler de la rédemption, qui n'a plus voulu parler d'un rachat, de racheter le temps, c'est-à-dire du combat spirituel, c'est-à-dire de la lutte entre le bien et le mal, c'est-à-dire de ne plus oser parler du péché, aujourd'hui, l'Église, avec ce qui est en train de se passer dans l'Église de France, se prend un retour de flamme magistral, puisque l'Église, depuis 30 ans, ne veut pas parler du péché, maintenant, c'est la société contemporaine qui désigne l'Église en disant « t'as pas parlé du péché, regarde, tu es péché ». Et l'Église qui n'a pas voulu en parler, aujourd'hui, est obligée d'assumer, dire « j'ai péché ». Tu voulais pas oser parler du péché à quiconque, ni pour les autres, ni pour toi. Tu es pécheur quand même, ça c'est sûr, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas, sauf que là, tu vas être obligé par les circonstances d'accepter de manière donc passive au départ, d'assumer un événement qui va t'obliger à t'approprier ce que tu avais mis sous la carpette au nom d'une concession au monde. Le mot péché, ça se fait pas, ça se dit pas, c'est piégé, on n'en parle pas. Et bien maintenant, tu es obligé d'en parler. Et tu es obligé d'en parler pour toi-même, d'abord. Voilà. Médecin, guéris-toi toi-même. Et en ce sens-là, eh bien, le bon Dieu est bon. Parce qu'effectivement, la souffrance, quelque chose qui arrive, encore une fois, qui peut être extérieur, qui n'était pas voulu, eh bien, va permettre, si nous savons nous l'approprier, je parle de la grande Église, mais je parle de chacun de nous aussi, hein, alors nous avons un moyen de changer. Puisque aujourd'hui, l'Église, là, est obligée de parler du péché à nouveau, puisque c'est elle qui a péché. Alors, eh ben voilà, eh ben maintenant on va reparler du péché, ça tombe bien. Voilà. Ça veut dire que maintenant, dans le discours, il va falloir reparler du combat spirituel, du combat entre le bien et le mal. Eh ben oui, parce que j'ai fait le mal. Ah, donc s'il y a le mal, donc c'est le contraire du bien. Ben oui. Ah oui, donc c'est pas une euphorie yukaïdi-yukaïda, en fait, la vie. C'est un combat entre le bien et le mal. Ah ben oui. Ouais, ouais. Eh ben très bien. Voilà. Eh ben si dans ton discours, tu le redis, eh ben ensuite, dans tes actions, ça se verra, à un moment donné. C'est aussi simple que ça. Et que ça aidera chacun. Ça aidera l'Église en tout, l'Église complète, et chacun de nous, et les prêtres, et les évêques, en revenant à reparler du bien et du mal. Ça ne veut pas dire que le bien devient plus facile qu'avant, mais au moins, nous saisissons mieux les enjeux. Et donc, ça aidera tout le monde. Et en un sens, le bon Dieu est bon de nous faire subir gravement tout ce qui est en train de se passer, parce que malgré tout, c'est mieux que de se diluer, de ne plus exister. Où là, finalement, il y aurait un mépris de Dieu, finalement. Dieu nous aurait délaissés, nous aurait abandonnés. Tant que ça gratte et tant que ça fait mal, tant que ça pique, c'est que ça vit. Donc, c'est une chance pour nous. C'est de la grande chance pour nous. Quand on déchire le bobo, le pansement, ah, ça bouge. Bah, si ça bouge, c'est que ça vit. Bon, donc, c'est bon signe. Voilà. Et bien, donc, cette vie blessée, voilà, le fait de dire « j'ai péché », voilà, on revient finalement au tout début de l'Église, hein, les confessions orales, le fait de dire devant tout le monde « j'ai péché ». Il y avait des péchés publics, il y avait des pécheurs publics, et on devait réparer publiquement. Voilà. Et ensuite, mais tout ça, c'est fini, Dieu est amour. Ah, Dieu est amour, il n'y a pas de péché, c'est fini tout ça. Dieu miséricorde. Ah oui, bah, il va falloir quand même que tu répares un petit peu, là. Avant de parler de miséricorde, il va falloir qu'effectivement, que tu assumes la vérité de ton mal, et ensuite, effectivement, de replonger dans ce qui va avec, mais ce qui va avec, qui est effectivement la miséricorde. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ah ben oui, mais il a abondé parce que d'abord, la grâce elle est venue parce que le péché a abondé. Et que, hélas, aujourd'hui, le péché est abondant. Alors, on n'a pas fini l'abondance, là, de ce côté-là. Hein. Mais, encore une fois, c'est peut-être le grand moyen, justement, de réduire à nouveau la capacité de pécher, parce que nous comprendrons mieux les enjeux. Voilà. Et qu'on n'est plus dans l'euphorie, on est dans la déflagration, et que grâce à ça, on va arrêter de se la jouer, et on va revenir à une humilité, tous, voilà, qui fait que bah, le péché, ça tue. Et le péché, ça tue l'âme, mais ça peut tuer des gens aussi. Voilà. Et donc, un acte, il a une responsabilité, et que ce n'est pas parce que Dieu est amour que nous n'avons pas une responsabilité par rapport, justement, à l'amour et au non-amour, parce qu'on reste libre soit d'aimer, soit de ne pas aimer, ou d'aimer mal, à force de croire que, puisque Dieu nous aime, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'est une reprise un peu malhonnête de saint Augustin. Aime et fais ce qu'il te plaît. Aime Dieu et fais ce qu'il te plaît. Eh bien oui, aime Dieu, aime sa vérité, aime sa loi, aime son salut, et alors fais ce qu'il te plaît, c'est-à-dire que tout ce que tu feras sera dans cette coloration de Dieu, du salut, de la rédemption. Donc tu trouveras une multitude de choses que tu pourras choisir librement en fonction de ta vie, de ton état de vie, de toutes ces choses-là, parce que tu comprends que l'enjeu, c'est le salut. Et que c'est un salut qui est offert par amour. Alors là, d'accord. Sinon, nous tombons dans une dimension mauvaise qui a été, encore une fois, un discours officiel au Vatican. Au Vatican, j'entends, dans les universités catholiques du Vatican, sur l'option fondamentale en théologie morale, qui était que tant qu'on fait une option fondamentale par rapport à l'amour de Dieu, tout ce qu'on fait ne nous coupe pas de la grâce. Quoi qu'on fasse, nous ne sommes pas coupés de la grâce tant qu'on n'a pas officiellement dit qu'on reniait Dieu. C'est ça, la théorie de l'option fondamentale. Ça a été professé, ça, dans les grandes années. Si, vous voyez, donc c'est, tant qu'on n'a pas renié le Christ, tout ce qu'on fait, c'est pas bien, hein, mais ça ne nous coupe pas de Dieu. À partir de là, donc, il y a une relativisation. Si ça ne nous coupe pas de Dieu, c'est pas bien, mais comme ça ne nous coupe pas de Dieu, tandis que le côté objectif, c'est ben, tu fais le mal, ça te coupe de Dieu, ah ben oui, donc il faut quand même que je fasse attention. Et voilà, une espèce de... Mais ça a été dit, ça a été professé, ça. C'est inouï, c'est inouï. Voilà, et on paye les pots cassés. Alors je dis pas que aucune communauté, aucun personne n'est, comme dit saint Paul. Moi, je me prêche à moi-même de peur qu'après avoir parlé aux autres, là, faut pas rêver. En revanche, effectivement, que au moins le discours soit juste et que quelqu'un qui ait du mal ensuite à tenir juste dans le discours juste, bah, c'est le combat spirituel que nous menons tous. Mais que au moins la justice de l'idée, de la vérité. Eh bien, soit là pour effectivement que nous puissions nous positionner convenablement. Sinon, voilà. Sinon, on ne se dénonce plus parce que nous avons péché, mais nous nous dénonçons uniquement parce que quelqu'un, va finir par nous dénoncer. Et ça, c'est pas chouette. Si c'est ça finalement le sens de la vérité, c'est que je cache autant de temps que je le pourrais. Mais que si quelqu'un découvre le poteau rose, bah, il vaut peut-être quand même mieux que je le dise avant, parce que c'est un tout petit peu moins humiliant. Mais c'est ça la morale chrétienne. C'est ça la morale chrétienne. Purée, mais c'est terrifiant. Hein. Et encore une fois, ça ne vient pas de nulle part. C'est ça le problème. C'est pas, bah oui, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute au monde. Oui, c'est la faute au monde, mais c'est la faute aussi à une... Encore une fois, à quelque chose qui a été professé. Pour ceux qui recevaient des doctorats, des trucs, des doctorats de théologie morale, ils disaient ça. Et c'est pas tout à fait fini. Hein. Et c'est pas tout à fait fini. J'entends pas le mal en général. J'entends cette espèce de théologie morale assez relativiste parfois dans certains endroits qui sont. Mais c'est pas que c'est douloureux à entendre. C'est un scandale. Et que là, peut-être, grâce à tout ça, voilà, on va peut-être pouvoir un petit peu remettre à plat. Maintenant, ça suffit. Enfin, là, c'est quand même. Bon. C'est un peu bien. Donc, nous rachetons le temps et que, merci Seigneur, de nous donner à vivre cette période qui était déjà pas fameuse avec le Covid, avec les guerres, avec les machins, et qu'en plus, on se prend une bombe atomique au sein même de l'Église. Très bien. Voilà. Eh bien, voilà. Nous avons à vivre tout cela à notre place, en étant scandalisés des grands péchés publics, mais de nos propres péchés aussi, il faut se rescandaliser de notre propre péché aussi. Il y a un moment donné où on est tous membres les uns des autres. Hein. On a besoin effectivement d'être ressaisis de cela, sinon nous relativisons aussi, nous sommes aussi relativistes que les autres, d'une autre manière. C'est-à-dire, ah oui, non, mais il y a les grands péchés, et moi j'ai les petits péchés, c'est des péchés mignons, c'est pas pareil. Erreur, nous faisons tous partie d'un grand corps, et que lorsque lorsqu'un matin de bonne heure, vous cognez le doigt de pied dans la porte de votre chambre, vous ne dites pas « Ah, mon doigt de pied a mal », c'est « J'ai mal ». J'ai mal. Effectivement, ben c'est la même chose. Quand l'un de nous est dans le mal, nous sommes dans le mal. Nous avons mal. Voilà, nous nous approprions, nous sommes tous. Et tous, nous sommes un. Voilà, un pour tous pour un. Voilà, voilà. Et donc, on a besoin d'effectivement d'être saisi par cela. Bien. Cet article, donc dans la croix, ne le répétez pas, hein, j'ai lu la croix. Mais comme quoi, vous voyez, une fois tous les 30 ans, il y a un truc bon quand même. Et j'assume. Hein. C'est très mauvais. La croix, c'est très mauvais. Et il n'est pas étonnant de voir certaines choses arriver quand on sait que, hélas, la croix ne survit financièrement que parce que tous les presbytères de France sont abonnés à la croix. C'est-à-dire qu'en général, le clergé mange du la croix comme la Pravda. Sauf que la croix d'il y a 70 ans n'est plus la croix d'aujourd'hui. Mais là, bon, là, il y a une pépite. Donc, vous voyez, donc, il faut savoir aussi. Il ne faut pas tout jeter. Hein, faut être prudent, mais il ne faut pas tout jeter. Donc, de cette dame, qui je ne sais pas si elle est catholique d'ailleurs, mais je trouve ça très intéressant par rapport justement à cette question de la rédemption, c'est-à-dire à l'idée même du signe de la croix dans notre vie, c'est-à-dire la participation du mystère baptismal, qui est en fait la participation au mystère pascal, de mort et de résurrection, dans lequel nous devons nous inscrire pour effectivement comprendre notre propre vie, comprendre la joie de vivre, et en même temps comprendre la joie de vivre au milieu du chaos, au milieu en tout cas des difficultés du quotidien. Sans quoi, nous tombons dans l'effet Père Noël. J'ai été gentil avec Jésus, donc il va me préserver de la maladie, de la mort, des problèmes, des impôts, de l'hiver, enfin tout va. Mais voilà, on est facilement, on est quand même, je crois que c'est Don Gérard qui disait ça, on est quand même une race païenne. Hein. Il y a un côté druidique encore, hein. pas loin. Hein. Astérix, Obélix, nous n'avons qu'une peur, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et en fait, on rigole, et en même temps, cette enseignante agrégée, docteur en philosophie, enseignante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dit quelque chose d'assez pertinent que je vous livre. Il fut un temps, et donc le thème c'est que pour nos contemporains, le paganisme est plus efficace que le monothéisme, et que la question aujourd'hui n'est plus soit de croire en Dieu, soit de ne croire en rien, c'est qu'en fait, comme le disait déjà le curé d'Ars, laisser une paroisse sans prêtre pendant 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, 20 ans, et ils adoreront les bêtes. C'est-à-dire que le besoin de l'homme d'être allié à quelque chose de plus grand que lui, parce qu'on est fait pour ça, fondamentalement, eh bien, si on ne le trouve plus en Dieu, ni dans ce que Dieu nous en révèle, on va aller le chercher autre part. Et que ce n'est pas le nihilisme qui nous attend aujourd'hui, c'est au contraire le polythéisme. C'est-à-dire, qu'il soit exprimé de cette manière-là ou pas, nous cherchons les idoles. On a besoin d'un veau d'or. Et parce que le peuple juif n'a pas compris, le peuple hébreu n'a pas compris Dieu qu'il fait le veau d'or, et qu'aujourd'hui, le monde se cherche des veaux d'or et vit de veaux d'or. De multitude. Je lis. Il fut un temps où la question inlassablement débattue était de savoir si nous avions cessé de croire, si Dieu avait déserté nos consciences et nos sociétés. Nous parlions alors de déchristianisation, de sécularisation, d'abandon des valeurs chrétiennes. Croire relevait d'une autre époque, plus marquée par l'obéissance ou plus encline à espérer. Ce temps et ces interrogations paraissent dépassés. Sécularisation, déchristianisation, laïcisation, la question s'est déplacée. Il s'agit peut-être davantage de nos jours de nous demander si nous sommes encore monothéistes, c'est-à-dire si nous ne serions pas devenus polythéistes. L'hypothèse d'un paganisme contemporain n'est pas à avancer uniquement parce que l'institution gardienne de la croyance, l'Église, a perdu non seulement son autorité, mais aussi sa légitimité, s'étant discrédité au travers de crimes sexuels et plus généralement de violences. Bon. C'est le constat qui s'impose, plutôt, donc au-delà du fait que l'Église se discrédite et se délégitimise par ce qu'elle fait ou par ce qu'elle a pu dire, c'est le constat qui s'impose face à la multiplication des phénomènes et des croyances polythéistes, de l'animisme à la divination, des sorciers aux oracles, dont la première manifestation fut en France l'engouement pour la fête d'Halloween, qui a largement remplacé la Toussaint pour nos concitoyens. Je rappelle que une ancienne ministre, qui est maintenant secrétaire d'État, dit « Ah ben oui, ça m'arrive de faire de la sorcellerie. Voilà. » Marlène Schiappa l'a dit, elle dit « Oui, je fais un peu de sorcellerie. » Donc, faut l'entendre quand même. Hein, c'est un truc que vous avez quand même des ministres qui ont part au gouvernement de la France, qui admettent, alors un, qui sont tous plus ou moins francs-maçons, mais aussi disent « Moi, je fais de la sorcellerie. » Donc, c'est une sorcière, donc, hein, je veux dire. Et c'est pas « Ah bah voilà, tout de suite, le procès en sorcellerie, j'ai pas besoin de faire un procès en sorcellerie, c'est elle qui le dit, qu'elle est sorcière. » Donc, c'est quand même, ça calme, hein. Ce n'est pas seulement, je continue l'article, ce n'est pas seulement parce que l'Église a dilué l'irréductible singularité de l'Évangile, qu'elle l'a monnayé en un appel assez abstrait au bien commun ou à un humanisme indéterminé, ah, ça on est tout à fait d'accord, hein. Effectivement, c'est le drame d'une religion qui devient religiosité et qui est presque assumée comme ça, c'est-à-dire je crois en l'homme, je crois en une Église qui croit en l'homme. C'est ce que Paul VI disait. Alors évidemment, on peut l'entendre de manière juste, de manière théologiquement juste, mais il y a quand même un grand danger que de croire que finalement, qu'est-ce que c'est que l'Église ? C'est celle qui croit en l'homme, et il se trouve qu'elle a aussi cru en Dieu. Alors évidemment, c'est un raccourci intellectuel dangereux, pas faux dans le sens où évidemment, je crois en l'Église, je crois en un Dieu qui aime tellement l'homme qu'il croit en lui, puisqu'il lui offre la liberté pour revenir, évidemment, mais avec le grand danger que finalement, nous croyons juste à l'humanisme, c'est-à-dire effectivement l'humain qui n'a plus, comme du temps de Babel, qui n'a plus besoin de Dieu pour s'ériger et d'être comme des dieux. Et donc il y a un vrai danger et une dilution, voilà, de diluer l'irréductible singularité de l'Évangile. C'est tellement particulier l'Évangile et on l'a dilué. Voilà. Eh bien, ça peut être dangereux. Ce n'est pas simplement parce que l'Église ne permet plus au christianisme de faire histoire, de nourrir une culture, de changer les consciences. Tout cela, l'Église se l'interdit depuis 30 ans. Elle se l'interdit. Ce n'est pas les autres qui lui interdisent. C'est qu'elle a honte de le faire. C'est qu'elle n'y croit plus pour elle-même. Et que donc, effectivement, bah, qu'est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas évident. Je mets ensuite un article avec Finkielkraut qui dit la même chose. Qui dit, vraiment, il y a un problème avec l'Église. En fait, le problème de l'Église, c'est l'Église. Hein. C'est pas les autres, hein. C'est de changer les consciences. Tout cela est vrai et doit être déploré. Mais la raison est aussi que nous avons fini par ne croire plus exclusivement qu'en un dieu protecteur, c'est-à-dire un dieu païen à qui on va faire des sacrifices pour qu'il nous fiche la paix. Une conception évolutionniste voudrait que le christianisme ait mis fin aux croyances et aux pratiques superstitieuses. Il n'en est rien. C'est au contraire parce que nous avons sensiblement substitué au Dieu du salut, et donc de la faute et de la rédemption, un Dieu protecteur, que nous en sommes venus aujourd'hui à rêver d'un monde réinvesti par les dieux. Car le Dieu du monothéisme remplit moins bien cette fonction protectrice qu'une pluralité de divinités. Mais c'est tout à fait c'est magistral ce qu'elle dit. Effectivement, on n'est plus dans le Dieu du salut. On n'est plus dans le Dieu qui vient nous sauver aujourd'hui. On est dans un Dieu qui nous aime, mais qui nous aime plus dans l'ordre de la rédemption qui se continue, qui nous aime tout court. C'est un papa gâteau. Alors évidemment, c'est papa poule. Donc effectivement, bah, vas-y mon loulou, qu'est-ce que c'est qu'un papa poule ? C'est quelqu'un qui ne fait pas le job. C'est quelqu'un qui... tu veux ça ? Bon, tiens, voilà, on va faire copain. Eh ben, voilà. Et cette dame, je ne sais pas si elle est les chrétienne, en tout cas, c'est voilà, substituée au Dieu du salut, et donc de la faute, et de la rédemption, tout est là. C'est catéchétique ce qu'elle dit là. C'est le Dieu du salut parce que Dieu de la faute, et donc de la rédemption, il y a une faute qui va être rachetée. C'est magnifique. Et ben, non, tout ça c'est terminé. Voilà, c'est la superstition, tout ça c'est fini. Voilà, on n'est plus dans la peur, on est dans la joie. Oui, super, la joie, je peux vous dire que là, l'épiscopat français, il est dans la joie. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Non, mais à un moment donné, voilà, qui veut faire l'ange, fait la bête. C'est Pascal. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Gustave Thibon a des textes magnifiques là-dessus, dans Ce que Dieu a uni, son bouquin magistral philosophique. Effectivement, celui qui se croit au-delà de l'homme, c'est-à-dire qu'il se croit autre chose qu'un homme, c'est-à-dire une personne blessée, blessée par le péché, blessée mais capable de se relever avec l'amour du Christ, avec la rédemption, avec la grâce, et qui se dit « non, mais tout ça, c'est pas moi, moi je suis au-dessus de tout ça », celui qui joue l'ange, c'est-à-dire au-dessus de la condition humaine, finira en dessous de la condition humaine, c'est-à-dire deviendra un animal. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Alors qu'il faut faire l'homme. Donc, une religion de la protection. « J'avais lu, donc, continue cette dame, en passant ce commentaire de Ricoeur sur Freud. » Donc, elle cite Freud. Elle cite Ricoeur par rapport à Freud. « La religion, pour Freud, est une compensation apportée à la dureté de la vie. Sa tâche est de protéger l'homme. La face nouvelle que la religion tourne vers l'individu n'est plus celle de l'interdiction, mais celle de la protection. » Fin de citation de Ricoeur qui parle de Freud. « Double clairvoyance, dit cette dame, de Freud d'abord et de Ricoeur ensuite, pour ne pas avoir à affronter la possibilité que le réel ne s'intéresse pas à nous et qu'il n'ait rien à nous dire. Nous avons trouvé en Dieu un réconfort, non pas une raison de vivre, mais une manière de donner des couleurs à la vie. Voilà. » La raison de vivre pour nous, c'est notre salut qui est à bout de bras, qui est à portée de main, mais et qui doit être fait. Et si nous n'avons plus cela, alors le sens de la vie, eh bien, est perdu. Parce que nous espérons une vie paisible, et en fait, qui ne vient pas. Et donc, il y a un moment donné où c'est un peu décevant. Le Dieu protecteur qui fait que notre grand-mère meurt quand même, alors qu'on a prié pour, c'est quoi ? Alors, c'est que la prière ne marche pas ? Ou qu'on n'a pas compris ce que c'est que la prière ? Et qu'on n'a pas compris ce que c'était que l'homme en transhumance et en pèlerinage. Eh bien, c'est ça le problème. Et combien de personnes quittent la foi officiellement, parce qu'en fait, ils l'avaient quittée depuis déjà 15 ans. Parce qu'en fait, il y a un événement qui va être douloureux, que les gens ne vont pas comprendre, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils comprennent plus la foi. Mais ils étaient encore dedans, de manière un peu habituelle. Enfin, dedans, un peu pratiquant, mais sans savoir ce qui s'y passait. Et bien, le jour où il y a un truc grave qui arrive, ben, puisque c'est comme ça, j'arrête. Puisqu'il arrive des turpitudes dans l'Église, ben, je quitte l'Église. C'est la même chose. C'est plein d'humains, l'Église. Hein. Comme dit Bernanos, hein, la chrétienté, c'est sale. Ah, c'est sale. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à balayer. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à nettoyer. Mais ça n'empêche pas que demain, ce sera à nouveau sale. C'est ça l'enjeu. Soit tout arrêter, eh ben non. Soit croire que demain, dans l'écurie, on fera un restaurant 3 étoiles. Eh ben non. Eh ben non. Voilà, quel bon sens. Je cite un petit bout, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais je cite un bout aussi de... Voilà. Double clairvoyance. Le domaine de compétence de la religion n'est donc plus la vie après la vie, mais la vie tout court, d'où la suite de l'analyse de Ricoeur. Du même coup, la religion s'adresse moins à la crainte qu'au désir. Nous désirons quoi ? Un bonheur pépère. C'est la moindre des choses. Et fait effectivement, et donc Dieu, puisque Dieu m'aime, et que Dieu est un papa poule, il va me donner ce dont j'ai besoin. Or, j'ai besoin d'une vie pépère. Mais c'est pas ça la vie. Donc, à un moment donné, mais alors je ne comprends pas pourquoi Papa Poule ne me donne pas ce dont j'ai besoin, puisqu'il m'aime, et que je sais bien, moi, ce dont j'ai besoin. Ben non, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il te soit révélé ce dont tu as besoin. Parce qu'entre le besoin et le désir, il y a un moment donné, effectivement, notre cœur déborde de ses désirs, et que si il n'est pas restructuré, s'il n'est pas éduqué, eh ben, regardez un enfant qui n'est pas éduqué, ça part dans tous les sens. Et, donc, voilà. Le paganisme, vous finirez la lecture de ça, parce que je voudrais juste lire le truc d'après, parce que c'est intéressant. Ça va avec, encore une fois, mais c'est vraiment un texte tout à fait pertinent qui est donné là. Et effectivement, le polythéisme, c'est-à-dire l'envie de s'appuyer sur des idoles qui vont nous faire du bien, eh bien, voilà. Mais le problème, c'est que les chrétiens font la même chose. C'est que les chrétiens ne veulent plus croire, je parle de ceux qui y croient. Alors, il y a les chrétiens qui n'y croient pas parce qu'ils ne le savent pas. On l'entend, hein. Oh là là, le catéchisme tradit, il parle du péché. Vous vous rendez compte ? Ah, donc, il ne faut pas nos enfants dans le catéchisme tradit parce qu'on va parler du péché. Péché de la mort, vous vous rendez compte ? On veut traumatiser nos enfants. Voilà. Résultat, c'est les premiers qui ensuite se suicideront et s'euthanasieront les uns les autres parce qu'on n'aura tellement pas parlé du péché de la mort qu'ils appelleront la mort. Ils la voudront, la mort. C'est terrifiant. C'est un truc, c'est... Bref. Donc voilà, donc il y a toute une zone très intéressante là, que je vous laisserai achever. Mais je voulais donc lire deux textes pour conclure. Oh, ça, c'est trop court. Donc, lors d'une soirée exceptionnelle à Paris, donc c'était un autre article, le Figaro a reçu Pierre Manant, professeur de philosophie politique, et Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain, membre de l'Académie française, qui ont échangé durant près de 2 heures. Outre la foi, ils ont également médité sur l'effacement de la matrice chrétienne dans l'Europe d'aujourd'hui. Pierre Manant, d'abord, et puis ensuite un petit texte d'Alain Finkielkraut. Page 4, oui, pardon. Pierre Manant. Dans une atmosphère sociale et morale où la religion chrétienne s'est renfermée dans les lieux de culte et où les fidèles ont perdu l'habitude de définir et de formuler l'objet de leur foi dans l'espace public. C'était ça le grand danger. Hein, la foi, c'est chez soi, c'est pas dehors. Il y a eu des ministres comme ça, qui l'avaient dit il y a peut-être 10 ou 15 ans. Ils disaient, moi je suis croyant, mais chez moi, dans ma propre conscience, mais pas dans mon action politique. Voilà. Et la difficulté dans certains endroits pour faire une procession publique, un pèlerinage dehors ou une procession eucharistique. La foi, c'est dans les murs, c'est pas hors les murs. Eh ben non, c'est hors les murs aussi, enfin bref. Donc dans une voilà, de définir. Cet objet devient flou, l'objet de la foi devient flou, à force de ne plus le définir, parce qu'il faut normalement le définir par rapport à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça, quand on est en dialogue, on est obligé de définir les mots, de définir les idées. Quand on veut discuter avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, eh bien, à force d'être resté entre soi, au nom du fait que de toute façon tout le monde était sauvé, Benoît XVI a un texte très intéressant, disant, au moment de Vatican II, on a tellement formulé et forcé le trait du fait qu'en fait, tout le monde peut être sauvé, même sans la connaissance de Dieu direct, et reprenant un bout de saint Thomas d'Aquin, mais alors complètement tordu, c'est-à-dire que celui qui est au fond de sa jungle, au fond d'une île déserte, qui n'a pas la possibilité de connaître Dieu, sera-t-il jugé sévèrement ? Ben non, il sera jugé selon la loi naturelle, selon ce qu'il aura pu comprendre de la vérité, en fonction de ce qu'il pouvait avoir. Ah ben c'est bon ! Donc ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'être missionnaire, puisque chacun sera jugé sur le bout de vérité qu'il peut connaître du fond de son cœur. Donc ça suffit. Et Benoît XVI dit, du jour au lendemain, il n'y a plus de missionnaires. Et plus rien. C'est-à-dire que, donc, il y avait des missionnaires partout. Diocèse de Nantes, il y a eu une époque qui n'est pas si loin. Le diocèse de Nantes, on en parlait hier, il y avait 1000 et 1000. C'est-à-dire qu'il y avait 1000 prêtres dans le diocèse de Nantes et 1000 autres prêtres venant du diocèse de Nantes qui étaient dans les communautés religieuses en dehors comme missionnaires. 1000. 1000 et 1000. Des chiffres, c'est 10 fois plus que la France entière. Là, vous voyez, le truc, mais c'est impressionnant. C'est 1000 et 1000. Voilà, et après, du jour au lendemain, ah ben, il n'y a plus besoin d'y aller. Parce qu'il faut laisser la liberté de culte, la liberté de croyance, la liberté de chacun. Et puis, de toute façon, chacun sera jugé sur ce qu'il a pu connaître de la vérité. Et ça suffira pour les... Voilà. C'est Benoît XVI qui... Je vous retrouverai le texte, si vous voulez. C'est tout à fait pertinent. Quatre lignes, boum. Il se laisse alors envelopper dans cette religiosité qui forme ce qu'on peut appeler la religion civile de l'Europe et même de l'Occident, à savoir la religion humanitaire. Voilà, à force de ne pas expliciter, de ne pas le faire ou de ne plus vouloir le faire, non plus à l'extérieur, mais aussi à un moment donné, ben, tout ce discours qu'on ne dit pas à l'extérieur, on a fini par se l'interdire à l'intérieur. C'est ça la vie de nos propres catéchismes. Voilà, on a tous des âges où nous avons subi un catéchisme qu'il aurait mieux valu que nous ne subissions pas, il aurait mieux valu que nous n'en ayons pas, vu ce qui nous a été dit. Je vous donne les dates et les mois, hein, les lieux et les machins. C'est qu'on a tous des expériences de ce genre-là. À force de ne pas le dire à l'extérieur, il ne faut pas non plus le dire entre nous, au nom de cette euphorie générale. Bon. Et bien donc, voilà, donc, à savoir une religion humanitaire, la religion de l'humanité. Celle-ci repose sur ce que Tocqueville appelait le sentiment du semblable. La compassion pour l'autre homme devient l'affect social par excellence. On comprend que cet affect soit confondu avec l'amour du prochain commandé par le précepte évangélique. Les effets de ces deux dispositions sont pour partie semblables. Pourtant, considérées en elles-mêmes, ces deux dispositions sont profondément différentes. Par la compassion, comme l'a très bien analysé Rousseau, c'est toujours Pierre Manant qui parle, je m'identifie à mon semblable souffrant, je me mets à sa place, mais bien sûr, je sais bien que je ne souffre pas. Et même, dit Rousseau, j'éprouve nécessairement, malgré moi, le plaisir de ne pas souffrir. La charité ne vise pas d'abord le semblable, elle, mais Dieu. C'est différent. Rousseau dit, voilà, c'est la religion du semblable. Ah ben, l'autre, c'est moi. Oh ben, non, l'autre, c'est Dieu, pour le chrétien. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation de la fraternité universelle, mais qui passe par Dieu, dont nous sommes tous fils. Celui que je vois est un frère en humanité, mais un frère en humanité en tant que Dieu l'a fait, mon frère. Et donc j'y vois là une définition, une identité et une estime beaucoup plus grande que simplement l'autre c'est un peu moi. Donc je préférerais, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, bon ben fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Mais ça c'est très égalitariste et c'est très humaniste. Mais il n'y a plus l'aspect transcendant qui fait qu'il y a une de vraies limites. Quand je n'ai pas envie, bah, je ne fais plus. Alors qu'encore une fois, la charité est un commandement. Qu'on ait la compassion, qu'on ait le sentiment, ou qu'on ne l'ait pas, c'est un commandement, c'est un ordre de Dieu. Mais pas pour la religiosité permanente là, qui nous est qui nous est présentée sur un plateau. La charité, elle, ne vise pas d'abord le semblable, mais Dieu, qui est présent dans le pauvre, dans le malade, dans le prisonnier. Cela semble moins humain que la compassion, parce qu'on est peut-être moins saisi. Oh, voilà, mais pourquoi les gens ils sont dans la rue avec un petit chien, avec un petit enfant, dans le métro, c'est parce que les gens vont être pris de compassion. Voilà, oh, voilà, et donc ça va donner les sous, ça va rapporter. Alors que la charité, il y a un moment donné où quelqu'un qui souffre a le droit, et même c'est le devoir du chrétien d'accomplir, de sauver celui qui souffre, mais pas parce qu'il a un petit chiot, mais parce que c'est mon frère chrétien. C'est mon frère, et que moi, en tant que chrétien, j'y vois mon frère. La charité surmonte, passe au-dessus les différences, mais elle ne les supprime pas. Sinon, la charité ne culminerait pas dans le commandement d'aimer nos ennemis, ceux avec qui il est impossible de s'identifier, pour qui il est impossible d'éprouver de la compassion. Hein ? Aimer vos ennemis, c'est un commandement du Christ, que le principe rousseauiste ne peut pas vouloir. L'autre, il faut le détruire. Voilà, vous finirez, c'est très dommage parce que c'est très riche. Alain Finkielkraut, donc il dit, « Sous l'égide de ce pape, le christianisme devient vraiment la religion de la sortie de la religion. » Et se confond avec le mouvement de la société moderne. Le christianisme n'est plus un culte, mais une morale, effacement de toute trace du divin au profit d'un humanisme de l'autre homme. Je reprends à dessein le titre du livre d'Emmanuel Lévinas. Humanisme de l'accueil de l'étranger, de l'ouverture à l'autre. Seulement, Lévinas affirme que cet humanisme ne peut pas se réduire à l'amour, parce que l'humanité n'est pas toute d'une pièce, et l'altérité non plus. L'humanité, c'est la pluralité humaine. Ainsi, des questions se posent. Qui est mon prochain ? Qui est le prochain du prochain ? Voilà. Et c'est pour cela que, dit Lévinas, il faut à l'amour la sagesse de l'amour, c'est-à-dire l'intelligence de l'amour. On n'aime pas n'importe comment, et on aime de manière ordonnée. C'est ce que dit, j'ai lu ça ce matin, Charles de Foucault. La charité doit être ordonnée. Qui sera le sujet du topo des lycéens demain soir. Effectivement, il y a un ordre. Oui. Alors, avec la morale humanitaire dans laquelle se reconnaît et s'accomplit le néo-christianisme, la sagesse de l'amour est congédiée. Il n'y a pas d'intelligence. C'est le compassionnel qui doit servir comme norme pour le chrétien. Eh bien non. Parce que le compassionnel, encore une fois, peut s'arrêter. Et puis il y a des gens plus compassionnalisants. Il y a des gens plus sensibles et d'autres moins. Mais ça n'empêche pas que tout chrétien doit la charité. Sinon, voilà. Bon. Je conclue. Pardon. Il y a tellement de belles choses. Hein, c'est toujours... On n'en fait pas un tiers. Mais c'est de votre faute aussi, vous m'interrompez tout le temps. Journal d'un curé de campagne, de Bernanos. Voilà, je trouve que là, encore une fois, pour faire un rapprochement entre un danger toujours d'une religion horizontale, c'est-à-dire il y a un rapport à l'homme directement, de l'homme à l'homme, et non pas de l'homme à Dieu qui le mène à l'autre homme, et ni l'action de la rédemption, c'est-à-dire le fait que je dois aider au salut des autres et je dois aider à mon propre salut, et que ce que je vis doit être rédempteur. Voilà, doit avoir cette action-là. Mais pour que je puisse vivre cela, pour que je puisse vraiment aider l'autre et que je puisse m'aider moi dans tout ce que j'ai à vivre de facile ou de difficile, je dois toujours voir le Christ en croix. Je dois toujours comprendre mon action et mon association au Christ en croix et à la rédemption qui continue le salut. Donc toujours cette interaction avec le ciel qui doit toujours être le fil rouge. Bernanos. C'est toujours le curé de Torcy, que j'aime bien. Voilà, je me retrouve bien dans le curé de Torcy. D'ailleurs, la définition, ce qui est dit dans Bernanos paraît pas mal. Effectivement, c'est le... Voilà. Voilà. Il est sympathique, il est convivial. Voilà, je me retrouve bien dans ce curé de Torcy. Et il est plein de bon sens. Voilà, ça, j'aimerais bien avoir autant de ce bon sens-là. En tout cas, voilà ce qu'il en dit. Ce curé de Torcy. D'où vient que le temps de notre petite enfance nous apparaît si doux, si rayonnant ? Un gosse a des peines, comme tout le monde, et il est, en somme, si désarmé contre la douleur et contre la maladie. Mais c'est du sentiment de sa propre impuissance que l'enfant tire humblement le principe même de sa joie, comprends-tu ? Présent, passé, avenir, toute sa vie, la vie entière, tient dans un regard, et ce regard est un sourire, c'est-à-dire tient dans le regard de sa mère, et ce regard est un sourire. Donc il est en confiance, pourtant il souffre aussi, il tousse, il a des problèmes et tout, mais il sait que de toute façon tout ça, ça le dépasse, mais il se retourne et il voit sa mère, et que sa mère lui sourit. Alors c'est bon, et sa joie elle est là. Ça ne veut pas dire que quand il cogne, quand il tombe par terre, il ne pleure pas. Sa joie, elle est là. Quelqu'un le regarde et quelqu'un lui sourit. Eh bien, mon garçon, si on nous avait laissé faire, nous autres, les prêtres, l'Église eût donné aux hommes cette espèce de sécurité souveraine. Retiens que chacun n'en aurait pas moins eu sa part d'embêtement. La faim, la soif, la pauvreté, la jalousie, nous ne serons jamais assez forts pour mettre le diable dans notre poche, tu penses ? Mais l'homme se serait su fils de Dieu. Voilà le miracle. Nous aurions aboli, nous aurions arraché du cœur d'Adam le sentiment de sa solitude. C'est-à-dire qu'il aurait toujours été relié, il n'aurait jamais été seul. Et finalement, il aurait toujours su qu'il y a quelqu'un qui le regarde et que celui qui le regarde lui sourit. Oh, quand même, c'est... Avec leur ribambelle de Dieu, les païens n'étaient pas si bêtes. Ils avaient tout de même réussi à donner au pauvre monde l'illusion d'une grossière entente avec l'invisible. On revient avec l'article du début. Mais pourtant, alors j'ai abrégé là, hors l'Église, un peuple sera toujours un peuple de bâtards, un peuple d'enfants trouvés. L'homme, s'il n'a pas l'Église qui lui dit qu'il est fils, et que quelqu'un le regarde, et que c'est un père, et que c'est un père qui lui sourit, on n'est plus que des bâtards, c'est-à-dire des enfants perdus. On ne sait pas d'où on vient. Alors que si, justement, par l'Église, on sait d'où on vient et on sait où on va. C'est tellement fort, c'est extraordinaire. Pourquoi le monde est-il dans le péché ? Et ne s'en réjouit même plus. Il y a à un moment donné une saturation du péché qui fait qu'on continue, mais il n'y a même plus de satisfaction. Parce que le monde a perdu l'esprit d'enfance. Eh bien, l'Église a été chargée par le bon Dieu de maintenir dans le monde cet esprit d'enfance, cette ingénuité, cette fraîcheur. C'est-à-dire, l'Église est là pour dire aux hommes qu'ils ont un père, donc ils ne sont pas des enfants trouvés, qu'ils ne sont pas dans la solitude. Je voudrais tenir celui qui nous traite d'obscurantiste, dit le curé de Torcy. Et je lui dirais, je porte certes une soutane noire qui me fait ressembler à un croque-mort, pourtant, j'aurai le droit de me promener vêtu comme la reine de Saba, parce que j'apporte la joie. Je vous la donnerai pour rien, cette joie, si vous me la demandiez. L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, l'Église, vous l'avez fait contre la joie. Mais que vous servirez de fabriquer la vie, même si vous avez perdu... Ah, pardon. Mais que vous servirez de fabriquer la vie même, si vous avez perdu le sens de la vie ? Fabriquer la vie tant que vous voudrez. C'est intéressant, c'est assez contemporain, hein, c'est de fabriquer la vie. Fabriquer la vie autant que vous voudrez. L'image que vous donnez de la mort empoisonne peu à peu la pensée des misérables. Elle assombrit, elle décolore lentement leur dernière joie. Mais attendez, c'est-à-dire qu'il y a peu... Vive la mort pour eux. Voilà. Vive la mort, mais alors pourquoi faire la vie ? Puisque de toute façon, c'est vive la mort. C'est ça qui est terrible. Et là, cette conclusion qui est assez terrible, hein, mais attendez. Donc, il parle toujours à ceux qui sont contre l'Église, voilà, qu'il n'y a d'espérance que dans cette vie et qu'il n'y a rien d'autre. Attendez le premier quart d'heure de silence après la mort. Alors, tous ces gens que vous avez arrachés du lien d'un père, tous ces gens que vous avez créés bâtards et enfants trouvés, c'est ça, derrière. Tous ceux que vous avez coupés, hélas, à un moment donné, ils entendront la parole. Non, donc à leur mort, alors ils entendront la parole, non celle qu'ils ont refusée, qui disait tranquillement « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais ils entendront la parole qui monte de l'abîme. « Je suis la porte à jamais close, la route sans issue, le mensonge et la perdition. » C'est terrible. C'est extraordinaire. Non, mais il faut relire Bernanos. C'est un truc. C'est alors ensuite il y a d'autres choses et tout. Mais je trouve que c'est très bien marqué. Bien, je vous remercie de votre attention.